Journée de campagne, bonjour, nous sommes dans le département du Tarn-et-Garonne cette semaine, Montauban et le département seront-ils sur la future ligne LGV? Grande question pour une capitale départementale qui reste néanmoins à 3h50 de Paris par TGV pour une prévision normalement de 3h10 avec la LGV en 2024, il faut attendre un peu. Le couplage train à grande vitesse, train express régional devient plus laborieux jusqu'à 5h, j'ai vérifié sur le programme SNCF et pour atteindre même près de 6h30 en TER. Le conseil départemental n'oublie pas qu'il a en parallèle la réhabilitation et la modernisation des lignes et des gares existantes. Aujourd'hui, nous allons nous inquiéter d'une autre réalité, à savoir l'incidence des produits phytosanitaires sur la santé des agriculteurs, de leurs familles et des riverains. L'antenne de France Nature Environnement du Tarn-et-Garonne poursuit une enquête dont Daniel Donadio, oncologue et premier invité, est un des responsables. Et puis nous ouvrirons ensuite l'avant-dernier volet du dossier La Révolution du Partage avec l'hebdomadaire La Vie pour aller à la corde d'Annecy.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Daniel Donadio, bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur, oncologue et membre de France Nature Environnement 82.
Oui.
D'ailleurs, l'association était une des premières du réseau France Nature Environnement de Midi-Pyrénées.
Oui, exactement.
Évidemment, quand on est oncologue, cancérologue, qu'on s'intéresse à l'environnement, on se dit, la santé va dépendre aussi de la qualité de notre lieu de vie, de notre environnement.
Exactement, vous avez tout à fait raison. J'ai noté depuis maintenant une trentaine d'années, avec mon maître M. Izard en 80-82, les hématologistes de France, on a noté indiscutablement une augmentation très importante de certaines tumeurs hématologiques, hématopoïétiques, et notamment des lymphomes.
Oui.
Qui étaient dans les années 60-80 de 4 pour 100 000 habitants, qui sont maintenant à 12 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire du même niveau d'augmentation que les mélanomes.
Alors comment vous mettez en relation cette augmentation absolument alarmante avec l'usage de produits phytosanitaires?
Eh bien, quand on fait des regroupements, je viens d'une région qui est le Languedoc-Roussillon, on s'aperçoit effectivement, quand on interroge nos collègues de Perpignan, de Narbonne, de Carcassonne, de Nîmes, de Montpellier, on s'aperçoit, quand on regarde la provenance des patients, on s'aperçoit que beaucoup sont issus du milieu agricole et notamment du milieu viticole.
Mmh. Autrement dit, il y a une augmentation de maladies de déclaration, entre autres de cancer, sur cette population et un petit peu en décalage avec un petit différentiel, aussi sur les populations riveraines.
Vous avez tout à fait raison d'évoquer ce problème. Les données jusqu'à l'heure actuelle ont surtout porté sur les agriculteurs. Or, dans la commune où vous savez, les agriculteurs, il y en a moins de 500 000 en France, et dans ma commune, ils sont 12. Avec 3 par famille, ça fait 60. Par contre, les riverains, il y en a plus de 1000. Donc, il faut surtout interroger les riverains. Ça, c'est fondamental.
Mmh. Alors, de ce fait, vous faites circuler une fiche d'enquête, l'impact des produits phytosanitaires en Tarn-et-Garonne.
Dans l'enquête, ils sont souvent posés 3 questions dans des zones qui sont directement impactées par les vergers. En Tarn-et-Garonne, c'est le premier département pour la production de pommes. Et donc, on a 50, 100, 150 jusqu'à 200 mètres. Donc, on va poser ces 3 questions. Depuis combien de temps êtes-vous là? Avez-vous été malade durant ces 3 dernières années? Et est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont été malades? Et donc, avec ces 3 questions-là, on va, je pense, essayer d'appréhender le problème des tumeurs, car c'est surtout des tumeurs hématologiques. Alors, en premier lieu, les lymphomes. En deuxième lieu, ce qu'on appelle des maladies de Kahler, des myélomes. Et en troisième lieu, les leucémies. Et puis ensuite, il y a toutes les maladies endocriniennes. Par exemple, dans ma commune, 2 petites filles sont atteintes de puberté précoce, ce qui était inhabituel. Et ensuite, bien sûr, les syndromes neurologiques, car ce n'est pas toujours des Parkinson. Ce sont des syndromes neurologiques très particuliers que l'on commence à appréhender, qui touchent à la fois les os, les nerfs et les muscles, qui sont des syndromes neuromusculosquelettiques très handicapants et qui surviennent à peu près à l'âge de 50 ans et qui, je pense, on va pouvoir étayer avec ces études-là.
Ouais.
Voilà un peu les directions qu'on va donner à notre enquête.
Ouais, alors votre enquête, une fois les fiches analysées et les corrélations qui sont évidentes entre des modes de production et les maladies qui se développent, hein, vous dites un développement de 30% sur 10 ans, ce qui est très très alarmant. La conséquence, ça va être de revoir la méthode de travail de production et de bouleverser complètement l'économie locale.
Bien sûr. Par exemple, nous déjà, en dehors de l'économie locale et qui, effectivement, vous avez raison, nous sommes sur l'agriculture industrielle avec les pesticides et d'autres méthodes. Eh bien, il faut repenser, bien sûr, cette agriculture avec une agriculture raisonnée, raisonnable. Les pesticides ne vont pas être éliminés du jour au lendemain, mais surtout, on sait très bien maintenant qu'au niveau des doses, ce n'est pas des quantités importantes qu'il faut mettre. Avec 10 fois moins de produits, on a les mêmes effets. Donc, il faut repenser au niveau de l'agriculteur, au niveau du consommateur aussi, il faut qu'il sache que, bien sûr, il aura des pommes qui ne seront pas totalement lisses, avec un peu de tavelure. Et puis surtout, au niveau de l'urbanisme, il faut maintenant interdire les constructions de maisons auprès des champs, il faut prévoir des zones tampons, il faut prévoir des haies, il faut prévoir des méthodes d'épandage la nuit, le jour, en fonction du vent, avertir les riverains. C'est tout ça, c'est une nouvelle, c'est une approche citoyenne, presque, je dirais, agricole.
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Merci encore, merci de votre accueil et je vous remercie pour toute l'équipe.
Mais c'est tout à fait normal, vous allez trouver les liens donc avec France Nature Environnement 82. Et merci à vous, docteur, et bonne journée.
Merci, bonne journée.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Nous avions croisé en Bourgogne un groupe d'insertion qui s'appelle IDÉ, gigantesque moteur de remise en route de personnes en panne, en marge ou en phase d'exclusion avec ses 4000 salariés. Dans le Tarn-et-Garonne, il y a une autre version d'IDÉ, mais qui s'écrit avec 2D et 2E, insertion pour le développement durable, l'environnement et l'économie solidaire. Cette association créée en mars 2006 exerce son activité en milieu rural en faveur de l'environnement, comme elle le spécifie dans ses statuts, et pour un public en difficulté ou en rupture sociale. Aujourd'hui, IDÉ est composée de deux établissements, ateliers, chantier d'insertion sous forme de recyclerie comprenant un atelier menuiserie, un atelier mécanique, un électrique, un autre pour l'informatique, un dernier consacré au vélo. 47 salariés dont 35 en insertion se partagent les deux sites de Caussade et de La Française. Au vu des résultats, l'association a doublé sa surface de vente de la boutique de Caussade, 1100 mètres carrés d'exposition, et depuis un an, IDÉ a intégré le réseau national des ressourceries. Le site c'est ressourcerie.fr si vous êtes intéressé, ce qui permet à l'association de participer à des opérations débarras auprès de grandes enseignes, comme le révèle Bruno Pégas, directeur d'IDÉ, à nos confrères de la Dépêche du Midi. À cela s'ajoute une convention renouvelée avec la communauté de communes afin de réserver des chantiers d'entretien d'espaces verts à l'association sur nos pages d'émission. Le lien avec IDÉ, son site et sa page Facebook. Laurent Gibovski, bonjour.
Bonjour.
Laurent, notre confrère de l'Hebdo La Vie pour un dossier en série, 5 rendez-vous autour de la révolution du partage. On va parler de partage des savoirs avec une grande gratuité, une belle solidarité. Exemple, la Corderie d'Annecy.
Oui, la Corderie d'Annecy, bah comme toutes les accorderies, c'est un lieu de partage des savoirs, des savoir-faire, des compétences. Et les membres qui sont appelés des accordeurs mettent à la disposition les uns des autres leurs compétences, leurs savoir-faire. Par exemple, des conseils pour cuisiner, la restauration des meubles, l'apprentissage des sports, des cours de musique ou des séances de bricolage. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'engagement de Marine Bouvier, que nous allons entendre dans quelques instants, parce que pour elle, comme pour beaucoup de gens qui s'engagent dans cette économie, dans cette nouvelle économie du partage. Elle a 28 ans, elle a été ancienne élève de Sciences Po, et c'est pour elle un choix que d'être devenue salariée de cette accorderie, parce qu'elle dit que pour elle, eh bien, c'est une manière de soigner le lien social, c'est quelque chose qui donne sens à son travail et à sa vie, et je trouve que c'est passionnant, voilà, de rencontrer des gens comme elle, et de voir comment cette économie du partage, c'est aussi un engagement personnel fort.
Marine est avec nous, merci Laurent. Marine, bonjour.
Bonjour.
Marine, coordinatrice de la Corderie du bassin d'Annecy, qui a été inaugurée en novembre 2014. Ça y est, maintenant, vous, est-ce que, avec 550 accordeurs, vous dépassez les prévisions?
Il n'y avait pas vraiment de prévision, mais en tout cas, oui, on est étonné par ce développement et très content de ce développement.
Est-ce que c'est facile de convaincre les uns et les autres que donner un petit peu de temps et en recevoir en échange, c'est quelque chose qui va au-delà de cette habitude? Si on fait quelque chose, tout travail mérite salaire. Est-ce qu'on arrive facilement à convaincre les uns et les autres de cette réalité-là?
Mais je pense que oui, d'autant plus que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin de faire en fait de démarchage. Les gens viennent assez naturellement, sûrement par le bouche à oreille et les recommandations des accordeurs. Puis ils entendent parler de nous sur les forums où on est présent et je pense qu'ils voient ça comme le prolongement des solidarités qui ont toujours existé entre les voisins, entre les personnes d'une même famille, entre les amis. Donc ils voient ça sous un bon œil, je pense.
Pardon pour le cliché, Marine, mais Annecy passe pour être une ville riche avec un coût de l'immobilier exorbitant, donc plutôt une ville aisée, confortable, où il y a peu d'exclusion.
En effet, c'est un endroit où la vie est chère, ce qui explique le besoin de peut-être de faire des économies ailleurs, et la corderie peut être un des moyens de faire des économies. Il y a toute l'agglomération d'Annecy, hein, ça va jusqu'au village, la corderie, ça touche vraiment un grand territoire au-delà de juste la ville, et ça marche sur ce territoire.
Toutes les classes sociales sont représentées.
Oui, toutes les classes sociales. C'est ça aussi qui est chouette, c'est que cette mixité sociale, elle n'est pas recherchée, elle se fait naturellement parce que les personnes viennent avec leurs compétences et pas avec leur milieu socio-économique. Du coup, ça se fait naturellement et c'est bien.
Alors, la richesse et la monnaie de la corderie, c'est le temps. On donne une heure de service et on peut recevoir une heure de service en échange pour tout. Apprentissage de la langue, le jardinage, la musique, l'informatique, la cuisine et tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des relations d'amitié qui se tissent au fur et à mesure ?
Oui, oui, oui. Il y a des relations sur le long terme qui se tissent complètement. Soit par les échanges qui parfois se répètent, soit via le portage de projets ou même de l'association où les accordeurs se rencontrent. Par exemple, on a une équipe qui tient les permanences, une équipe qui saisit les chèques-temps, une équipe qui va tenir les stands de l'accorderie sur les forums. Et là, les accordeurs se retrouvent et entretiennent leur lien d'amitié. Pour donner un exemple, moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'être devenue amie avec une personne qui a plus de 60 ans et en dehors de l'accorderie, peut-être que ça, ce serait pas arrivé.
Ouais. Parce que les accordeurs qui deviennent très copains, ils ont plus envie de comptabiliser le temps de service.
En effet, peut-être que ça peut être une tentation, mais finalement, ça se fait quand même assez naturellement parce que tout le monde a besoin des heures ensuite pour demander des services à d'autres personnes
évidemment.
De la corderie. C'est rare qu'une personne se limite à une seule autre personne, donc c'est nécessaire de comptabiliser pour rester en lien avec tout le monde.
Exactement. Et la corderie d'Annecy est sur le réseau des accorderies en France, accorderie.fr, et vous allez trouver le lien avec Annecy. Et puis il y a également la corderie bassin annécien, la page Facebook. Merci Marine.
Merci à vous.
D'une génération à l'autre, les pratiques changent. Exemple avec le projet avancé par Valérie, on revient dans le Tarn-et-Garonne évidemment, fille d'agriculteur, qui a peut-être elle aussi compris les risques que les futures générations encouraient avec la poursuite des activités de production agricole conventionnelle. Donc Valérie et quatre de ses amis envisagent de voir l'agriculture sous un autre jour en créant une éco-ferme participative. Le site existe déjà, la ferme de Kadesou, et ce projet appelé Oasis en Séoune comprendra une activité agricole durable, une partie de production en permaculture, un espace artisanal et un programme d'accueil et de formation du public. La propriété, qui se situe dans une petite vallée au coude de la rivière La Séoune, justement, est entourée de terres de culture qui se prolongent par des parcelles de terre en plateau. Dès à présent, la ferme peut démarrer des activités agricoles, permaculture, maraîchage, petit élevage, mais le collectif recherche aussi d'autres personnes prêtes à participer à l'évolution de cette oasis et à s'installer dans ce vaste espace. Il peut s'agir de porteurs d'activités culturelles, artisanales ou agricoles. Vous allez trouver développement de ce projet Oasis en Séoune sur le site de Colibri La Fabrique. Et puis l'Oasis en Séoune a déjà un compte Facebook avec une page. Vous allez trouver également le lien. Avant de nous séparer, je vous rappelle que pour cette fin d'année, la semaine prochaine, nous traverserons Paris, l'Île-de-France pour de nombreuses initiatives. Nous terminerons l'année avec la Sarthe avant de commencer l'année nouvelle 2018 avec de multiples lieux présentés dans nos émissions avec le jeu des 1000 euros. Ensuite, nous serons dans l'Essonne, la Marne, la Seine-et-Marne et le Finistère. Pour conclure le mois de janvier, n'hésitez pas à nous écrire.